Bonsoir à tous selon le pays et l'heure à laquelle vous nous écoutez. Bienvenue pour ce quatrième épisode maintenant d'Efrika, le podcast du football africain de la rédaction de Lucarne Opposée. Comme d'habitude, je vous encourage à continuer d'interagir avec nous sur Facebook, Twitter, YouTube et tous les réseaux sociaux où l'on se trouve. Vous êtes toujours plus nombreux à relayer nos différents podcasts, je le dis à chaque fois, et c'est toujours génial à observer. On ne peut que vous en remercier. J'en profite pour saluer en particulier Ibrahima Haroub, j'espère que c'est correct, je me base sur le pseudo Twitter, hein, ainsi que Louis Christovan, deux fidèles de la première heure d'Efrika. Salut à vous et merci beaucoup pour les relais et les commentaires. Podcast spécial Nigeria aujourd'hui, nous partirons en effet du côté de la patrie de ce magicien de Djedje Okocha, en compagnie de Pierre-Marie Gosselin, qui nous fera un portrait du championnat nigérian. Mais avant toute chose, place au courrier Quinfri. Nommé à la tête des Harambees du Kenya en novembre dernier, le sélectionneur belge Paul Poot a annoncé sa démission seulement 4 mois après son arrivée donc. Il se murmure que cette démission aurait pour but de le rendre disponible à une nomination en tant que sélectionneur de la Guinée. Une décision du vice-champion d'Afrique 2013 avec le Burkina Faso qui a surpris beaucoup de monde, d'autant qu'il s'était engagé avec le Kenya pour 2 ans. Une blague belge qui passe assez mal du côté de Nairobi. Les qualifiées africaines pour la prochaine Coupe du Monde féminine U17 en Uruguay sont connues. Le Ghana atomise Djibouti 19-0 au score cumulé. L'Afrique du Sud élimine le Maroc finger in the nose 6-1 au total. Et dans la grosse affiche, le Cameroun réalise un gros coup en sortant le Nigeria grâce à un plus grand nombre de buts à l'extérieur. Les deux adversaires s'étant neutralisés 3-3 au final des deux rencontres. Le VAR, le VAR, la fameuse vidéo assistance, sera utilisé pour la première fois en Afrique en match officiel pour le compte de la Super Coupe de la CAF 2018. Celle-ci opposera samedi le Wydad Casablanca, vainqueur de la Ligue des Champions 2017, au TP Mazembe, sacré en Coupe de la Confédération la même année, au Mohamed V de Casablanca. Un stade légendaire dont l'histoire vous est racontée par Farouk Abdou dans le second numéro de Lucarne Opposée Magazine. Sorti cette semaine, ruez-vous dessus! En ce qui concerne la mise en place du VAR, du VAR, rappelons que les arbitres ont été formés à l'assistance vidéo durant le dernier CHAN, il y a donc un petit mois seulement. Les récompenses de l'année sont tombées au Nigeria. La NFFF vient d'annoncer les résultats lors de sa traditionnelle soirée de gala. Le joueur de Chelsea, Victor Moses, a été élu joueur de l'année, tandis que Kennedy Boboy, coach de l'équipe championne Plateau United, est lui aussi récompensé dans sa catégorie. Eh bien, en parlant du Nigeria, tiens, on va la faire courte pour aujourd'hui en ce qui concerne les brèves, et nous filons tout de suite au pays des Super Eagles, car à l'image de ce géant du continent, tant dans le football que la géopolitique, c'est un gros morceau qui nous attend pour ce podcast en vert et blanc. Yari. Sarubi, Bambi, Uramaya. Et nous partons donc tout de suite au Nigeria, un sujet donc pour évoquer le championnat du Nigeria, le championnat de club bien évidemment du Nigeria, un sujet qui va être présenté, développé par Pierre-Marie Gosselin. Comment vas-tu Pierre-Marie ?
Bonjour Simon, bah écoute, ça va très bien et toi ?
Ah ça va très bien, écoute, tout va bien ici à Belo Horizonte, toi tu n'es toujours pas rentré à Cotonou.
Toujours pas, mon grand désespoir, ça traîne encore, mais bon. Je garde confiance. L'Afrique, c'est ça, c'est beaucoup de patience.
Tu vas bientôt manquer à tes petits, à tes petits U13 de l'Abisport.
On parle pas. On a un tournoi qui commence la semaine prochaine et c'est à distance, c'est un peu compliqué. Je fais un peu le coordinateur à distance entre le coach, les promoteurs du tournoi et tout. Bon, ça me permet de rester un peu actif, mais je t'avoue que quand le tournoi va commencer, je serai un peu triste de ne pas être sur le terrain.
Je peux comprendre. Mais aujourd'hui, point de Bénin, on part du côté de Lagos, qui d'ailleurs, je crois, est l'ancienne capitale. Il me semble que c'est plus la capitale. Bah, d'ailleurs, voilà, tu vas, pour commencer un peu le sujet sur le Nigeria, déjà, ce serait bien que tu nous remettes un peu le contexte, tu remettes dans le contexte de ce qu'est le Nigeria. C'est un des plus grands pays d'Afrique, le plus peuplé. Si je ne me trompe pas. Quel est le contexte de ce championnat ? Qu'est-ce que c'est le Nigeria, concrètement ?
Alors, ouais, comme tu l'as dit, c'est important de présenter un petit peu le Nigeria. Donc, Nigeria, c'est frontalier avec le Bénin. Donc, c'est un pays, malheureusement, dans lequel je ne suis pas encore allé, mais bon, qui m'attire beaucoup et qui dégage une certaine puissance. On sent que, en tout cas, depuis Cotonou, depuis le Bénin, à seulement quelques dizaines de kilomètres de la frontière, on sent que c'est un pays qui est vraiment imposant et qui transperce un peu les frontières par son influence. Donc, comme tu l'as dit, hein, c'est le pays le plus peuplé d'Afrique. On est en train de se rapprocher tout doucement des 200 millions d'habitants. Je crois que les prévisions de 2017 font en état de 192 ou 193 millions. Donc vraiment, c'est d'ici l'horizon 2020, ils seront déjà 200 millions. C'est une république fédérale comme les États-Unis, donc 36 États. Voilà, en termes de superficie, c'est pas le pays le plus grand d'Afrique. Hein. Il y a les pays du Maghreb, enfin l'Algérie, le Soudan, qui sont des pays un petit peu plus grands. Mais en termes de démographie, c'est de loin le pays le plus peuplé. Donc la capitale, Abuja, un petit peu à l'image du Brésil. Hein, c'est comme Brasilia, c'est une ville qui est centrale. Donc c'est vraiment la capitale qui est au centre du pays. Et comme tu l'as dit, la plus grande ville, c'est Lagos, 20 millions d'habitants avec l'agglomération. Alors, c'est des chiffres difficiles. J'ai du mal à imaginer comment on peut mesurer la population d'une mégalopole africaine. Mais voilà, en tout cas, les informations qu'on a, c'est 20 millions. À mon avis, ça le dépasse largement. Mais bon, voilà, c'est pour vous donner une idée de la taille que peuvent avoir les villes du Nigeria. D'un point de vue ethnique, il y a trois grandes ethnies qui se distinguent dans le Nigeria. Il y a les Hausa, au nord, donc qui sont musulmans, qui sont un peu des peuples mélange de peuples, etc., qui sont les peuples du nord et du désert qui ont gravité jusqu'à arriver dans le nord du Nigeria. On retrouve les Igbo à l'est et les Yoruba à l'ouest. Donc voilà, c'est vraiment les trois grosses ethnies dominantes. Alors ça pose beaucoup de problèmes parce que vous imaginez qu'un pays avec, alors je m'éloigne un petit peu du football, hein, mais un pays avec des ethnies dominantes, ça veut dire que c'est compliqué, par exemple, quand on a un président qui est Yoruba, d'être accepté par les Igbo, quand on a un président qui est Hausa, d'être accepté par les Yoruba, etc. Donc voilà, vous imaginez un petit peu tout le jeu que ça peut engendrer. Et d'un point de vue politique, ben, c'est un État indépendant depuis 1960 et c'était une ancienne colonie anglaise, britannique, donc membre du Commonwealth. Pour revenir un petit peu plus vers le football, continuer un peu dans cette démographie. Alors c'est un peu dommage parce que jusqu'à présent la FIFA permettait d'avoir accès au nombre de licenciés dans les pays. Et bon, là j'ai fait une recherche dernièrement et c'est plus disponible. Donc on peut pas savoir officiellement combien il y a de licenciés, mais on peut s'amuser à faire un petit calcul en se basant justement sur la démographie du pays. Donc voilà, c'est des chiffres qui sont un peu plus vieux, donc ce ne sont pas les estimations de 192 millions d'habitants de 2007, c'est des calculs qui avaient été faits en 2010, mais bon, ça permet d'avoir une idée. Et donc j'ai repris la tranche d'âge de 5 à 24 ans, donc on peut dire celle qui pourrait potentiellement représenter le plus gros vivier de footballeurs au Nigeria, et figurez-vous ben, que ça représente 46% de la population totale. Donc voilà, vous faites un très rapide calcul, on peut dire que c'est du 50-50 entre les hommes et les femmes. Voilà, ça peut être de l'ordre de, je sais pas, 20-25 millions de footballeurs en prenant une fourchette un peu basse. C'est des chiffres colossaux, en considérant que bien sûr tout le monde ne joue pas au football, mais qu'une grande majorité de la population, surtout des garçons et beaucoup des filles, parce qu'au Nigeria le football féminin est très développé. Donc voilà, c'est un immense marché pour le football.
Tu as raison de nous parler du Nigeria hors contexte foot, puisque souvent le contexte politique, géopolitique, social a une répercussion, est reflété par le foot. Hein. Ce n'est pas
des géopoliticiens du foot comme, je ne sais pas, Pascal Boniface ou je sais que, tiens, Monsieur Guégan, qui est l'auteur d'un livre sur la géopolitique du sport, qui, je le sais, nous retweet de temps en temps et nous écoute, donc on le salue. Voilà, ils ne diront pas le contraire, donc tu as bien raison, moi je trouve, de remettre un contexte vraiment social et ethnique, notamment, pour entamer cette page sur le football nigérien de club. Mais alors, justement, comment dans un pays aussi immense en termes de population et dans un tel patchwork ethnique, on organise un football national de club?
Alors, c'est à la fois simple et compliqué. Donc, comme tu l'as dit, avec autant de population, c'est quand même, ça doit être difficile hein, pour une fédération de pouvoir être structurée, organisée, comme peut l'être la Fédération française de foot, par exemple, et avoir des clubs un petit peu dans chaque ville, dans chaque village, avec des catégories d'âge bien, disons, bien organisées. Hein, je veux dire par là que le championnat des U9, des U13 aussi bien organisé que le championnat de première division. Donc voilà, ce n'est pas la réalité du Nigeria, mais malgré tout, il y a quand même une organisation de l'élite qui est plutôt pas mal. On a un championnat de première division qui en a sa 47e saison, donc sa 28e professionnelle. Donc vous faites rapidement le calcul, hein, quand pratiquement le championnat est arrivé une dizaine d'années après l'indépendance du pays. Ce qui est intéressant, c'est pour ce championnat de première division, c'est de savoir que la fédération et la ligue nigérienne ont effectué un partenariat avec la Liga, donc la Liga des footballs en Espagne, et le Botola, donc le championnat du Maroc, pour essayer de se développer, pour justement pour améliorer son organisation et son efficacité. La preuve, le championnat se déroule de septembre à juin, donc à l'image du championnat de la Liga en Espagne et du Botola au Maroc, et puis c'est un peu les devants, ça, ils ont un petit peu pris les devants, disons, par rapport à la CAF, puisque vous le savez, la Ligue des Champions africaine et la Coupe de la Confédération africaine l'année prochaine se joueront sur un calendrier non plus annuel de janvier à décembre, mais plutôt sur deux saisons, voilà, de septembre à juin. Donc voilà pour la première division. Donc ce championnat a 20 équipes. Les équipes qui jouent en première division et dans les autres compétitions professionnelles peuvent aussi, ont également droit à une coupe, la FA Cup et la Super Cup. Un détail qui est très important, surtout pour les suiveurs du football africain, dans le championnat du Nigeria, tous les matchs se jouent le dimanche. C'est une très bonne initiative parce que quelque part, ça permet d'avoir une grande clarté. On sait que le dimanche, ben, c'est le jour du championnat, etc. Donc, ça permet d'harmoniser un petit peu tout le suivi du championnat. Et c'est très rare en Afrique, donc c'est très important de le souligner.
Pour rappeler, parce que tu parles de football le dimanche, donc la messe footballistique du dimanche, le Nigeria est un pays chrétien, ma grande majorité.
Alors, c'est un pays à majorité chrétienne, mais avec aussi énormément de musulmans. Enfin, il y a beaucoup de diversité, il y a aussi beaucoup d'animisme, mais en majorité, c'est un pays chrétien. Chrétien, parce qu'on peut pas dire vraiment catholique, parce qu'il y a également beaucoup d'églises protestantes, etc. Vous allez d'ailleurs pouvoir vous en apercevoir un petit peu plus tard dans le podcast, mais bon, on peut pas dire qu'il y ait une dominance religieuse sur une autre, que ce soit chrétien ou musulman au Nigeria, les deux cohabitent et je pense que c'est difficile de dire qu'il y a une religion qui domine, même si les chiffres annoncent, enfin non, même si les chiffres nous disent qu'il y a plus de chrétiens, pardon.
D'accord.
Et sur ces matchs qui se jouent le dimanche, hein, c'est important parce que, voilà, par exemple, pour prendre l'exemple du championnat voisin au Bénin, ben, on a des matchs de championnat qui s'étalent du lundi au dimanche. Donc, voilà, c'est difficile de savoir quand son équipe joue, etc. Il y a vraiment pas d'harmonie là-dedans. Et c'est vrai que c'est une des choses qui m'a le plus surpris quand je me suis, quand je me suis plongé vraiment dans ce championnat du Nigéria. Donc, je vais continuer un petit peu dans la pyramide. On va redescendre. On va aller cette fois du côté de la deuxième division, donc la NNL. Elle est plus à 20 équipes, mais à 32 équipes. Donc, le Nigeria étant quand même assez vaste d'un point de vue géographique, ils ont divisé le championnat en 4 groupes, donc 2 poules nord et 2 poules sud. Et le premier de chaque groupe, en fait, monte, voilà, très simplement. Donc, il y a ce jeu de la relégation, voilà, qui est régionalisé. cette division, cette deuxième division a quand même pas mal de grands noms. Vous allez voir un peu plus tard quand je vous ferai la présentation de quelques équipes. Mais voilà, je peux d'ores et déjà vous citer Bielsa United, Bendel Insurance, Shooting Stars ou encore Warri Wolves, qui sont, pour ne citer que, qui sont voilà des grands clubs nigériens qui jouent cette année en deuxième division. On retrouve également une troisième division, la Nationwide. Alors là, c'est encore plus d'équipes, 80. On a 8 relégations avec la quatrième division et 4 équipes qui montent vers la deuxième division. Là aussi, on a un championnat qui est régionalisé. Et à partir de cette division-là, on commence à retrouver les équipes réserves des meilleurs clubs du pays, donc qui peuvent être par exemple en première division et avoir leurs réserves en troisième division. Et on a également une quatrième division qui n'est plus professionnelle, mais qui est quand même bien organisée par la fédération. Et voilà, là, c'est encore plus que 80 équipes. J'ai pas réussi à avoir le chiffre exact. Mais voilà, c'est pour vous dire, déjà, en comptant ces trois divisions, on en est déjà à 140 clubs, 132 clubs, pardon, professionnels ou semi-professionnels. Donc, vous voyez un peu la taille du football nigérien. Il y a un petit détail qui est intéressant concernant la troisième et la quatrième division, c'est qu'on voit apparaître de plus en plus des ligues privées, notamment dans les régions les plus densément peuplées, comme du côté de Lagos, qui permettent, voilà, donc c'est des ligues privées, un peu comme le système nord-américain avec la NBA, la MLS et tout ça. Et donc voilà, ils essayent de concurrencer la fédération et la ligue de football nigériane. Bon, pour l'instant, c'est pas encore dans des proportions immenses, mais voilà, c'est quand même un facteur qu'il faut prendre en compte et un élément qui risque dans les années à venir de bouleverser peut-être un petit peu l'échiquier nigérian du football des clubs.
D'accord. Et le championnat, donc, on va revenir un petit peu à la première division que tu vas nous mettre un petit peu plus en lumière. Cette première division dont la première journée a eu lieu le 13 janvier, hein, ça a commencé, il n'y a pas si longtemps que ça. Donc c'est un championnat, tu vas nous l'expliquer. Il y a eu 9 journées de jouer. Donc 20 équipes, 38 journées, hein, c'est fort sensiblement la même chose que notre championnat de France. D'ailleurs, oui, ce que je me dis quand tu parles de cette structuration du football de club, c'est extrêmement structuré et ça fait énormément penser au football. Enfin, ça nous est très familier, ça fait avec les équipes réserves, quelques échelons en dessous, c'est très ça nous est très familier, je trouve.
Ouais, non, tu as raison, mais je pense que c'est quelque chose quand même qui est rendu possible par cette abondance de clubs qui sont quand même pour la plupart bien structurés, bien organisés avec des moyens. Quand on a parlé un peu de la présentation du Nigeria, voilà, vous imaginez qu'avec une telle densité de population, il y a énormément d'entreprises qui sont prospères, que ce soit de l'agroalimentaire, du BTP, les brasseries, pour ne citer que, ou les télécoms, etc. Enfin voilà, c'est avec autant de population, vous faites rapidement beaucoup d'argent et comme c'est un pays de football, ben forcément, des passionnés investissent dedans et c'est comme ça qu'on se retrouve avec beaucoup de clubs. Donc forcément, pour pouvoir faire jouer tous ces clubs dans une organisation un petit peu efficace avec des systèmes de montée et descente, et ben vous êtes obligé de faire un petit peu comme on fait en Europe avec des premières divisions nationales et puis des divisions inférieures un petit peu plus régionalisées, voilà, pour permettre, enfin pour des contraintes budgétaires, hein. C'est clair que si vous devez payer un vol de 6 heures pour jouer un match au lieu d'une heure de trajet de bus, bon ben le coût est différent. Et en ça, c'est vrai que le Nigeria a su très bien le faire et je pense que le soutien, que ce soit de la Liga et du Botolan, n'est peut-être pas étranger à une si bonne organisation, parce que c'est quand même professionnel depuis 90, c'est pas négligeable et voilà, ça montre que le Nigeria, il n'est pas un grand pays africain par hasard et que même si la stabilité politique ou économique n'est pas forcément de rigueur tout le temps, voilà, dans la structure quand même de son football, elle a réussi à se stabiliser depuis son lancement en 90. Enfin voilà, c'est important. C'est pas évident forcément à chaque fois dans tous les pays d'Afrique, donc c'est à souligner.
C'est sûr, oui, c'est à saluer. Et du coup, bah, qu'en est-il de cette édition 2018 du championnat du Nigeria?
Ouais, alors on en est, donc comme tu l'as dit, 9e journée. On est en plein dans les matchs de Coupe continentale en ce moment, donc il commence à y avoir quelques matchs en retard, notamment pour le leader Akwa United qui participe à la Coupe de la Confédération et qui du coup se retrouve déjà avec un match en retard, mais ils sont quand même leaders à égalité avec l'équipe de Kano Pillars. Tous les deux ont 16 points. Plateau United, qui est le champion en titre, est donc troisième avec 15 points. Et pour débouler jusqu'à la fin du classement et à la 20e place, où l'équipe de Niger est dernière avec 9 points. Pourquoi je viens direct au monde dernier, c'est parce que vous voyez, entre le premier et le dernier, on a seulement, donc le calcul très rapide, hein, de 16 à 9, c'est 7 points d'écart. Après 9 journées, c'est pas énorme. Ils ont déjà 3 victoires, donc un dernier de classement à 3 victoires, c'est pas forcément très commun. Je crois qu'en Italie, Benevento a mis pratiquement 3 mois pour gagner son premier match ou 4 mois pour gagner son premier match. Donc voilà, c'est pour souligner un petit peu ce qui fait la caractéristique du championnat nigérien, c'est qu'il est très très homogène. Beaucoup d'équipes se tiennent en très peu de points, c'est comme ça chaque année. Donc vous avez 20 équipes, donc 20 équipes, ça fait autant de matchs qu'en Ligue 1, et pourtant le champion à la fin de l'année peut se retrouver avec seulement 60 points ou plus. Voilà, c'est des championnats qui se finissent autour de 70 points, et c'est uniquement parce que c'est un championnat très homogène où il est très difficile de s'imposer, et surtout la marge entre le champion et la descente est finalement très faible, et une équipe peut se retrouver championne et l'année d'après ou 2 ans après se retrouver déjà en deuxième division. Voilà, pas parce qu'ils ont forcément blessé, mais parce que les autres autour sont tout aussi compétitifs qu'eux et que la moindre erreur se paye cash, que ce soit dans le management, dans les transferts, etc. Donc voilà, c'est un championnat qui laisse pas trop la place aux erreurs. Et d'ailleurs, je te propose qu'on avance un petit peu et que je vous présente un peu les grands clubs du pays.
Mais c'est ce que j'allais dire, parce que tu nous as parlé du coup d'un championnat homogène où l'erreur était peu permise, où voilà, beaucoup d'équipes pouvaient s'imposer, et si beaucoup d'équipes peuvent s'imposer, ça veut dire qu'il y a beaucoup d'équipes intéressantes. Toutes les équipes sont intéressantes, hein, attention, à lucarne opposée, on n'est pas du genre à favoriser les gros aux dépens des petits, hein. Tout le football est intéressant, c'est comme le principe de lucarne opposée. Mais voilà, il y a peut-être du coup un peu plus d'équipes à mettre en lumière pour une introduction sur le Nigeria. S'il y a autant de champions possibles, alors tu nous as déjà cité quelques noms, mais est-ce que tu peux nous présenter un petit peu tous ces grands protagonistes du championnat nigérien?
Avec grand plaisir. Donc pour cette présentation, je me suis pas cassé la tête, j'ai pas été essayer de chercher quels sont les clubs les plus populaires, etc. Je suis parti simplement du nombre de titres en allant du club le plus titré au club. Bon, il y a beaucoup de clubs qui ont un seul titre, vous allez comprendre, mais je me suis attardé à ceux qui avaient des profils intéressants. Mais honneur au plus grand et en tout cas à celui qui a gagné le plus de titres, il s'agit de Enyimba. Alors Enyimba, hein, qui est actuellement en première division, ils sont d'ailleurs quatrième au championnat avec 14 points, donc à seulement 2 points des leaders. Enyimba, ça veut dire éléphant, ça veut dire éléphant du peuple en Igbo. Donc c'est la plus grande équipe de l'ethnie Igbo. 7 titres de champion, tous conquis entre 2001 et 2017. C'est un club qui est situé dans le sud-est, hein, là, c'est le sud-est du Nigeria, c'est la région où les Igbos sont le plus présents. Si le club a remporté son premier titre en 2001, il a quand même été créé bien avant, puisqu'il est là depuis 1976. À ces 7 titres, on peut ajouter 4 Coupes du Nigeria et surtout 2 Ligues des Champions de la CAF consécutive entre 2003 et 2004, ce qui, dans l'ère moderne de la Ligue des Champions africaine, n'est pas un mince exploit, surtout pour un club qui n'est pas le Al Ahly ou le tout-puissant Mazembe. Parmi quelques joueurs, hein, qui sont sortis de ce club-là, on peut citer notamment Vincent Enyama, donc le gardien ou ex-gardien, je ne sais pas s'il a bougé au dernier mercato, mais en tout cas celui qui est sur le banc du côté de Lille.
Il vient encore.
Et ouais, donc c'est dommage parce que c'est mal parti pour lui pour la Coupe du Monde, parce que justement Gernot Rohr, le sélectionneur, avait dit que si Vincent Enyama ne joue pas, ce sera quand même compliqué de le faire partir en Russie. Et je t'avoue que c'est vrai que en parlant de lui, c'est là où je me rappelle, est-ce qu'il a bougé? Et tu vois, c'est un peu dommage parce que c'est quand même un sacré avantage pour le Nigeria d'avoir Vincent Enyama dans les buts. Bref, je ferme la parenthèse Enyama. On a aussi un autre joueur, un Béninois, qui est passé par le championnat de France et qui est sorti de cette équipe de Enyimba, hein, qui avait participé à l'épopée de la Ligue des Champions, tout comme Vincent Enyama en 2003 et 2004. Il s'agit de Mouri Ogundi. qui a joué, je crois, du côté de Paris FC dernièrement. Et l'exploit de un petit peu de cette équipe nigériane, c'est quand même, hormis leurs 7 titres, ils ont gagné 2 Ligues des Champions en 3 participations. C'est un sacré ratio d'efficacité.
C'est costaud, oui.
On continue un petit peu. Toujours une équipe qui a 7 titres, Enugu Rangers, les Flying Antelopes. Eux aussi, ils sont toujours en Ligue 1. Ils sont 8e, 13 points. Alors, 13 points, c'est que 3 points du leader. Toujours pareil dans ce championnat ultra serré. C'est également une équipe qui est située dans la région de Igbo, du côté de Abia. On appelle même cette ville la capitale de Igboland. Donc, pour vous dire vraiment que ce club est également lié avec l'ethnie Igbo. Donc, lui, c'est... Disons, c'était l'équipe qui dominait dans la région avant Enimba, puisque leurs sept titres de champion ont été principalement dans les années 80, même s'ils en ont remporté un dernièrement en 2015. Cette équipe-là a quand même fait 2 finales continentales qu'elle a remportées en 75 et en 77. Et ils ont été éliminés l'an dernier au premier tour en Ligue des Champions. Voilà, donc on continue un petit peu. Cette fois-ci, on part du côté de Lagos, donc plutôt dans la région des Yoruba, où on va parler des Shooting Stars d'Ibadan. Alors eux, ils sont actuellement en deuxième division. Ils ont remporté 5 titres. Ça fait depuis presque 10 ans qu'ils font l'ascenseur entre première et deuxième division. Ils ont du mal à retrouver leur lustre d'antan, comme on dit, et surtout la période où ils régnaient sur l'Afrique, puisqu'ils ont remporté une Coupe des Coupes en 1976 et une Coupe de la Confédération en 1995. Et ce club d'Ibadan peut quand même se vanter d'avoir formé le meilleur buteur des Super Eagles du Nigeria, qui n'est autre que Rashidi Yekini. Et rien que pour ça, ce club mérite d'être dans le panthéon du football nigérian. Et donc, Shooting Star d'Ibadan, c'est vraiment le club un peu à l'image de Enimba, qui est la fierté de l'ethnie Yoruba.
Yekini, un nom qui nous sort tout droit des années 90. Et donc, voilà, ça commence à faire une bonne vingtaine d'années et record qui tient toujours pour Yekini.
Ouais, et Yekini, hein, c'est pour on est à la radio, mais c'est celui qui marque le but à la Coupe du Monde 94, pardon, et qui va dans les filets. On connaît tous cette photo célèbre là où il est en transe avec les poings serrés dans les buts. Donc après Shooting Stars, on va continuer. Donc Heartland FC, qui est une équipe aussi qui est plutôt située en territoire Igbo, dans la même zone, hein, donc Enimba. Et Enugu, pardon, eux, ils ont rapporté 5 titres, plutôt même chose, hein, fin des années 80, puisqu'ils ont remporté 5 titres entre 87 et 93. Donc, ça a été vraiment très concentré. Ils ont eu une pique de performance qui leur a permis de devenir un grand club nigérian. Ajouter à ces 5 titres, c'est 5 coupes. Et si Heartland FC Oweri, ça ne parle pas forcément à ceux qui suivent le championnat, c'est parce qu'avant, ils s'appelaient Iwanyanu National. Et ce changement s'est fait en 2006. Donc voilà, c'est une équipe qui a surtout brillé dans le passé, vous l'aurez bien compris. On continue, des équipes qui ont toujours 5 titres de champion, c'est les Canopilars. Canopilars, donc, qui est en première division et qui est même, vous l'avez bien noté, en deuxième position dans le championnat actuel. Canopilars, c'est donc une équipe qui est située dans le nord du côté de Kano, comme son nom l'indique. Et là, du coup, on se retrouve plutôt en territoire Osa. Et donc, c'est le club, c'est le plus grand club de la région et c'est le club qui représente un petit peu la communauté Osa. Pour eux, les résultats sont un petit peu plus récents. C'est un club qui parle à ceux qui suivent un peu le championnat africain, enfin la Ligue des champions africaine, puisqu'ils ont remporté leurs 5 titres entre 2008 et 2014. Donc, voilà, un peu à l'image de la description précédente de Heartland. C'est toujours dans un laps de temps très court que le club a constitué son palmarès. Et eux, ils ont pu s'appuyer sur un joueur qui a bien réussi en Europe, surtout du côté de la Russie, même si en ce moment, ça se passe un petit peu moins bien pour lui. C'est Ahmed Moussa. Je sais pas si ça te parle. Il est du côté de Leicester, mais je crois qu'il a été reprêté en Russie cet hiver.
Oui, Moussa, M-U-S-A. Hein.
Ouais, il avait fait très mal à la France, au mondial brésilien. Je crois qu'il joue il est lié, il était sur son côté droit et c'est un gaucher redoutable. Le mérite quand même à cette équipe de Canopilars de l'avoir formé leur revient. Donc, c'était important aussi de le souligner. On poursuit avec maintenant les équipes qui ont 3 titres. Ça va vous permettre aussi de comprendre un petit peu les enjeux de justement de qui montrent que cette organisation nigérienne est puissante et intelligente. Donc cette équipe, c'est Dolphin FC. Ils sont situés à Port-en-Cour. Port-en-Cour, c'est une grande ville aussi du Nigeria, située sur la côte avec un très grand port. Ils sont connus notamment pour faire partir le pétrole hors du delta. Eux, c'est donc 3 titres entre 97, 2004 et 2011. Donc, contrairement au club, aux 2 clubs qu'on vous a présentés avant, ben, ils ont réussi à étaler leur palmarès sur une distance un petit peu plus longue. Suite à leur titre de 2004, ils ont perdu la finale de la Coupe de la Coupe de la Confédération 2005 contre les Phares de Rabat. Avant d'être les Dolphins, cette équipe, c'était les Aigles de Ciment. Et aujourd'hui, ils ne sont plus les Dolphins puisqu'ils se sont associés avec une autre équipe de Port-en-Cour, les Sharks. Donc, les Dauphins et les Requins se sont associés en février 2016 pour former aujourd'hui les Rivers United, qui sont en première division, qui ont très bien réussi puisque dès leur premier championnat, ils ont fini deuxième. Et cette année, ils sont en embuscade, 9e à 3 points du leader. Cette fois, on arrive aux équipes qui ont 2 titres. Et toujours un petit peu dans ce côté historique, Bridge FC. Donc anciennement, ça s'appelait Julius Berger. Et Julius Berger, ben, c'est la plus grosse entreprise de BTP au Nigeria, très loin devant toute la concurrence internationale. Donc vous imaginez un petit peu la puissance qu'a pu avoir ce club, hein, avec la démographie aussi importante qu'a le Nigeria. Ça implique beaucoup de construction. Donc forcément, ben, le BTP est un secteur qui a explosé. Donc Julius Berger, c'est 2 titres en 91 et en 2000. C'est aussi 4 coupes, 2 finales de coupe des coupes continentales en 95 et 2003, sans victoire malheureusement pour eux. Ce qui est intéressant avec ce club, c'est que ben justement, je vous parlais de la concurrence des ligues pro. Et ben eux, ils ont vendu leur licence de la fédération, leur licence auprès de la Ligue de football nigériane, qui leur permettait de participer au championnat professionnel. Ils l'ont cédé, ils l'ont vendu, et maintenant ils ont décidé de participer dans des ligues privées du côté de Lagos. Donc voilà ce que je vous disais qui risque de faire concurrence un petit peu, notamment aux divisions inférieures.
C'est une équipe qui a disparu du coup. Enfin, là on a un cas d'équipe qui est parti du football classique de la fédération vers une ligue privée.
Exactement. C'est pas forcément. Alors je dis pas qu'ils ont brillé ces dernières années, hein, puisque leur dernier titre remonte à 2003. Mais bon, et voilà, au bout d'un moment, quand les résultats ne viennent pas, ils ont préféré carrément sortir du système et rentrer dans un autre. Faut savoir que du coup, la licence pour pouvoir rentrer dans le championnat professionnel nigérien est du coup devenue très prisée parce qu'ils sont nombreux à vouloir y accéder. Et en achetant une licence, en fait, ça permet d'éviter de faire tout le parcours qui commence de la 4e division pour essayer de se qualifier jusqu'à la première, ce qui est pas forcément très aisé. Quand même, cette équipe a formé pas mal de bons joueurs. Quand je vais te donner la liste, tu vas tout de suite comprendre. Taribo West, Sunday Olise, Samson Siasia, qui était le sélectionneur qui a été pendant un petit moment la sélectionneur du Nigeria, qui est adjoint de Garnot Ror, et Emmanuel Amunike, qui a joué du côté, je crois, de Newcastle. Donc voilà, c'est un club qui quand même a compté, et notamment par le nombre des Super Eagles qui l'a formé, et voilà, qui permet aussi d'avoir un exemple de ces clubs qui disparaissent et qui vont en ligue privée.
Ah bah c'est sûr ça me parle. Taribo West, nul besoin de le présenter, hein, ancien Auxerrois et interiste avec ses 2 petites couettes colorées, vertes, comme les couleurs du Nigeria. Et après, moi j'adore, Amunike aussi, ça évidemment ça me parle. Et Sunday Olise, ça m'évoque un but sublime en 98 contre l'Espagne à la Coupe du Monde, une frappe lointaine un peu, c'est une demi-volée ou un truc, mais une patate monstrueuse et superbe qui m'avait ébloui étant gamin.
Ouais, je te comprends, ça faisait une sacrée paire entre Sunday Olise et Djedi Okocha, je m'en souviens très bien. On poursuit avec toujours des équipes comme Julius Berger, comme Bridge FC, pardon, qui ont remporté 2 titres, Bendel Insurance, donc voilà, j'en ai parlé un tout petit peu avant. Leur surnom, les Vipères du Bénin, c'est toujours sympa aussi de donner les noms de ces équipes-là parce qu'ils ont parfois des noms assez sympas. Du Bénin, pourquoi ? Parce qu'il y a une ville au Nigeria qui s'appelle Benin City, il y a une région qui s'appelle Bénin, et donc c'est l'équipe de Benin City. Donc ils jouent cette année-là en 2e division. Donc ajouté à leurs 2 titres de champion, on peut noter la formation d'un prodige du football nigérian qui n'est autre que Djedi Okocha. Voilà, rien que pour ça, on était obligé de les mettre dans notre liste.
Djedi. Juste, voilà, chers auditeurs, les plus jeunes qui n'ont pas connu JJ Okocha, YouTube, JJ Okocha, il y a des compiles de 10 minutes, un quart d'heure, je pense, juste de ces gris-gris, c'est... on est sur du monstrueux avec JJ.
Ouais, et je pense que Oliver Kahn, hein, le gardien du Bayern, le mythique gardien de l'Allemagne, se souvient encore de son but, je crois que c'était du code
Brussi, ma mémoire. Moi, c'est l'Eintracht Francfort.
Probablement, et où il dribble un petit peu comme l'avait fait Zlatan avec l'Ajax, toute la défense, et il s'amuse un petit peu des défenseurs avant de marquer. Et aussi, je voulais aussi vous parler de, pour revenir sur son club, hein, donc il a formé Bendel Insurance. Je voulais en parler aussi parce que vous voyez, donc Bendel Insurance, c'est le nom d'une compagnie d'assurance. Donc c'était eux qui ont au début administré le club, qui l'ont financé, etc. Donc comme je vous disais, hein, il y a des compagnies qui font beaucoup d'argent du côté du Nigeria avec passion pour le foot, s'investissent dedans. Et l'équipe s'appelle toujours Bendel Insurance. Mais la compagnie d'assurance n'a plus rien à voir avec le club, puisqu'aujourd'hui, c'est carrément le gouverneur de l'État qui l'administre et qui le gère. Donc, on pourrait dire que c'est un club administré par une entité publique, donc par l'État. Et, mais malgré tout, ils ont gardé leur nom historique. Donc, voilà, c'est ça aussi le Nigeria. Beaucoup de clubs du Nigeria sont soutenus et sont ardemment soutenus par leur État, par leur État fédéral, hein, comme je l'ai expliqué au début, c'est divisé en États. Donc, c'est vrai que pour un État, pour un gouverneur, c'est important d'avoir une équipe de sa région qui brille. Et c'est pour ça qu'on retrouve des super clubs par région pour être présent en première division. Maintenant, on va se rapprocher. Alors là, c'est pas forcément des clubs qui ont des palmarès importants, mais on se rapproche un petit peu.
Il y en a beaucoup, donc tu peux peut-être nous les citer rapidement et nous en sortir une ou deux. Comme ça, à mettre en lumière.
Ouais, exactement. En fait, c'est ce que je voulais faire. Du coup, là, je vous ai cité tous les clubs qui ont remporté plus de 2 titres du Nigeria. Et en partant du premier, hein, donc Enyimba et Enugu Rangers qui en ont 7, jusqu'à Bendel qui en a 2. Et donc maintenant, là, c'est plutôt des clubs qui ont remporté un titre, mais qui ont un parcours un petit peu spécial et des anecdotes un petit peu croustillantes. On va commencer par Plateau United. Plateau United, c'est le champion en titre. Cette année, ils sont troisième dans le championnat. Ils sont pas encore largués, pardon, j'étais en train de les chercher. Troisième avec 15 points, donc à un point du leader. Ils sont dans la course. Ils ont fait un plutôt pas mauvais début de saison. Tu l'as dit dans les brèves, hein, son entraîneur Kennedy Boboy vient d'être élu meilleur entraîneur du Nigeria. Donc c'est une équipe Plateau United qui se situe dans le nord, dans la ville de Jos, donc plutôt du côté de Kano. Et il y a un truc qui est complètement fou avec cette équipe, c'est que si on remonte en 2013, il y a des soupçons, enfin qui sont plus que des soupçons, il y a eu une affaire de match truqué pour leur équipe réserve. Donc pas pour l'équipe Plateau United principale qui joue la première division, mais pour leur équipe réserve qui jouait donc à l'époque la 4e division. Je te laisse deviner. Enfin bon, je vais pas te laisser deviner parce que ça va prendre des plombes, mais je te donne le score du match contre leur adversaire qui était Akruba FC, 79-0. 72 buts marqués en deuxième mi-temps.
D'accord, c'est eux qui ont marqué les 79, 72, je sais plus déjà les buts.
C'est eux qui sont imposés 79-0. Donc 72 buts en deuxième mi-temps. Dans la même journée, donc il y avait un deuxième match qui impliquait deux autres équipes de la même poule, donc Police Machine contre Baba Yaro FC. Et là, le score 67-0, 61 buts en deuxième mi-temps. Donc forcément, c'est trop gros pour être vrai. Les équipes, les joueurs, tout le monde a été banni pendant 10 ans. Donc ça ne concerne pas l'équipe de Plateau United qui joue la première division, mais par contre la réserve elle a été dissoute. Pour l'équipe là, parmi les 4 équipes, hein, donc il y a une équipe qui s'appelle Baba Yaro FC. Je me suis quand même inquiété parce que je sais pas si ça te parle, Célestine Baba Yaro, un ancien joueur de Chelsea notamment, hein, qui avait joué avec l'entraîneur de Bordeaux actuel, Gustavo Poyet, et qui avait remporté la médaille olympique en 96. Et je me suis demandé si c'était son équipe, parce que ça s'appelle quand même Baba Yaro FC, et il faut savoir que Célestine Baba Yaro a été formée à Plateau United. Donc c'est clairement sa zone. Et j'ai pas réussi à savoir si c'est exactement son club. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça s'est pas trop bien fini pour lui, puisque j'ai appris qu'il a dû se déclarer en faillite. Donc ses gains gagnés dans sa carrière de footballeur en Europe ont dû être pas très très bien gérés. Et j'espère qu'il est étranger à cette mascarade là, parce que quand même, sincèrement, Simon, 79-0 et 67-0 en football, c'est quand même assez fou, quoi. Ça fait du 2 buts par minute. Ils ont mis 72 buts.
Plus que, voilà, c'est ce que j'allais te dire. C'est que du 79 ou du plus de 60 buts, même du plus de 50 buts, pour ceux qui ont joué un match de 90 minutes, bah, faut les caser. Même si on te laisse marquer, faut les caser. C'est pas facile à caser. Voilà, il y a que 45 minutes par mi-temps. Mais oui, enfin, surtout une mi-temps. Donc, il y a que 45 minutes puisque tu le dis que les trois buts sont marqués en deuxième mi-temps. Et oui, bah voilà, c'est beaucoup trop gros. Je veux bien qu'il y ait des scores énormes, comme je me souviens d'un Australie-Samoa américaine, où on est, voilà, c'était à peu près plausible parce que l'écart de niveau était énorme, sur du 30-0, quelque chose comme ça. Mais non, non, là, c'est pas possible. Si t'as triché, autant bien tricher. Là, c'est trop gros.
Qui visualise les joueurs qui marquent et qui sont en train de sprinter pour aller remettre le ballon au milieu du terrain et qui repartent dans le but. Qui font des allers-retours. Enfin bon, voilà, j'ai du mal. C'était pour un enjeu par rapport à une montée. En fait, ils essayent de jouer sur le goal average. Mais bon, enfin voilà, 79-0, c'est quand même.
N'importe
voilà.
Quoi.
Ça valait le coup d'être raconté quand même parce qu'à mon avis, c'est de l'ordre de l'improbable complet cette histoire. on poursuit un petit peu dans des clubs comme ça qui ont un titre et un parcours assez incroyable. Là, c'est l'histoire de Leventis United. C'est un club qui a disparu aujourd'hui. Et donc, je vais vous narrer un exploit qu'ils ont réalisé dans les années 80, au milieu des années 80. C'est la seule équipe au Nigeria qui a réussi à remporter 3 titres de champion consécutifs dans 3 divisions différentes. Donc, ils ont remporté la 3e division. Ils sont montés, ils ont remporté la 2e division. Ils sont montés et ils ont fini champion du Nigeria. Donc, voilà, de 84 à 86. Ces 3 montées, 3 titres. Voilà, leur aventure s'est arrêtée en quart de finale de Ligue des Champions où ils se sont fait sortir par l'Étoile du Sahel. Donc voilà, c'était quand même une super histoire, passer de la 3e division au quart de Ligue des Champions, c'est pas très commun. On a également eu une équipe, toujours là, c'est pour vous montrer un petit peu le voilà, comme on a vu avec Benda l'assurance, c'est l'équipe de Lobistar FC. Lobistar FC, je crois, ils sont cette année en 2e division, il me semble. Ouais. Mais ce qui est intéressant avec cette équipe-là, c'est que donc Lobistar, c'est une banque qui s'appelle la Lobby Bank. Donc c'est la Lobby Bank qui a créé le club qui avait créé le club. Puis c'était devenu Benue State. Ça reprenait donc l'état dans lequel est intégré dans lequel est situé le club, dans l'état de Benue qui a pris ça en charge. Puis après c'est devenu Benue Brewery parce que les brasseries nationales sont venues les brasseries de la région sont venues à leur tour administrer le club pour finir avec Lobby Bank et enfin pour revenir plutôt avec la Lobby Bank et puis bon finalement le gouvernement s'est désengagé, enfin c'est un club qui est en train de sombrer, je dis ils sont en 2e division, je me suis trompé, ils sont en 3e division, donc ils sont plutôt sur la pente descendante. Et puis un dernier club, je voulais vous donner quand même cet exemple là si je voulais donner aussi parler de, parce que je les ai pas du tout mentionné, Bayelsa United, qui est la dernière équipe nigérienne à avoir vraiment brillé en Ligue des Champions, même s'ils l'ont pas gagné, ils avaient fait une demi-finale en 2009. Voilà, même chose, ils ont remporté un titre et ils ont fait une très belle épopée. Et puis depuis, c'est compliqué pour eux de poursuivre et de continuer à même être présent en première division. Et je voulais finir par 2 équipes. Donc la première, c'est BCC Lions of Boko, qui est situé plutôt à l'est du Nigeria. Eux aussi, ils sont administrés par une cimenterie, puisque BCC, c'est Benue Cement Company. Un titre de champion en 90 pour un club fondé en 82, c'est pas trop mal. Ils ont remporté une coupe de la CAF. Bon, ils ont un palmarès assez correct. Et puis le club a commencé à chuter un petit peu. Il y a eu plusieurs tentatives de réanimation, un petit peu comme l'exemple que je vous ai donné avant avec Lobistar, avec différentes entités qui essayent de venir. Et puis le dernier qui est arrivé là dans tout ce schmilblick, pardon, c'est le plus riche milliardaire du Nigeria, Aliko Dangote, qui a essayé un petit peu de réintégrer de l'argent dans le club, de faire un peu un baroud d'honneur, et puis ça n'a pas fonctionné. Le club est aujourd'hui carrément sorti des radars. Je voulais parler un petit peu de Aliko Dangote parce que c'est assez intéressant. C'est un homme d'affaires qui a fait fortune dans le ciment et dans les BTP. C'est plus de 12 milliards, je crois, une fortune de plus de 12 ou 13 milliards de dollars. Et figurez-vous qu'il est administrateur de l'équipe de Arsenal à Londres, donc Arsenal FC. Et il a tenté à plusieurs reprises de racheter l'équipe. Il a fait plusieurs propositions pour devenir l'actionnaire majoritaire et donc le propriétaire de l'équipe sans que ce soit accepté par, par ses collègues, je crois que c'est un consortium américain, il me semble, qui est à la tête du club. Mais voilà, pour ça, pour que vous sachiez, que ne soyez pas surpris si d'ici quelques années, l'équipe d'Arsenal est dirigée par un Nigérien. En tout cas, Aliko Dangote, lui, travaille dessus depuis longtemps et ça lui tient énormément à cœur. Et enfin, je vais finir par le plus beau pour la fin. C'est l'équipe qui a terminé deuxième l'année passée. Alors, leur nom, c'est MFM. MFM pour Mountain of Fire and Miracles Ministries. Tout simplement, c'est une équipe qui est administrée par une église. Donc, une église réformée, protestante, hein, pas une église catholique. Mais c'est une église qui dirige cette équipe. Donc, les Olukoya Boys. Et voilà, je pense que c'est le seul club professionnel du monde qui est géré par une église. Si tu en connais d'autres, je suis preneur. et figure-toi qu'ils se retrouvent à disputer la Ligue des Champions. C'est un parcours assez fou. Donc, voilà, cette équipe qui est tout simplement gérée par un pasteur et qui arrive jusqu'au sommet du football africain, c'est assez génial et c'est top. Et voilà, donc j'ai fini un petit peu mon tour des équipes. Je sais pas si tu as des questions, s'il y a...
Tu étais plus que complet et plus que clair. Non, je n'ai pas de questions parce que c'était ma foi très complet, très clair, quoi. Tout simplement. Voilà, j'espère, chers auditeurs, qu'on vous a donné envie. C'est peut-être un peu difficile de suivre le championnat nigérien, mais en tout cas de vous y intéresser, de chercher des vidéos sur YouTube, de le suivre via les sites de résultats, voilà. Et c'est toujours intéressant de se rendre compte qu'en Afrique, il y a des pays qui ont un football, bon, déjà on le sait, des pays qui sont de très grandes cultures footballistiques, mais ça, pour le Nigeria, ce n'est plus à présenter, ce n'est plus à prouver. Mais en plus de cette culture footballistique que l'on connaît via la sélection nationale des Super Eagles, il y a, tu l'as montré, un championnat extrêmement structuré, avec des clubs très structurés également, des clubs importants, voilà, et surtout une grande compétitivité, puisque voilà, il y a beaucoup de champions, il y a une grande variété d'équipes possibles pour gagner ce championnat du Nigeria.
Juste, ouais, en guise de conclusion, il y a le Nigeria, c'est le pays qui envoie le plus d'Africains en dehors du continent. Je crois qu'ils sont 11e si on prend le classement global, hein, qui est largement dominé par le Brésil, puis la France, etc. Mais enfin, le Nigeria est le premier pays africain. Et quand même, ne soyez pas surpris que le Nigeria devienne une place forte du football, pas seulement africain, mais mondial, parce que tout simplement, la FIFA et la CAF sont en train de venir et de se rapprocher du Nigeria et de sa puissance économique et démographique. Le dernier sommet du comité exécutif de la FIFA s'est tenu là tout dernièrement à Lagos. Des entreprises nigérianes sont les sponsors de la Confédération africaine de football, sont les sponsors majeurs de la Confédération africaine de football. Ils sont appelés à l'avenir à détrôner les sponsors comme celui qui est actuel Total ou comme le précédent qui était Orange, qui sont plutôt des entreprises européennes. Et voilà. Et donc c'est pour dire que. Et la FIFA aussi est en train de commencer à avoir des sponsors qui sont des entreprises nigériennes. Donc le Nigeria, en plus d'être un pays de football, va devenir vraiment une nation forte dans l'échiquier du football africain, mais aussi mondial. Voilà.
Merci. Voilà, ce sera le point final de ce sujet sur le championnat du Nigeria. Merci beaucoup PM. On se retrouve la prochaine fois pour parler des compétitions continentales qui auront passé un cap.
Avec grand plaisir. Salut Simon, à bientôt.
Merci à tous de nous avoir suivis pour cette 4e émission spéciale Nigeria. Donc, n'oubliez pas de venir nous solliciter sur les réseaux sociaux. J'espère en tout cas que l'émission vous a intéressé, que vous en avez appris autant que moi sur ce grand pays du football africain. Et bien, quant à moi, je vous dis à très bientôt pour un nouveau numéro d'Efrikia. Salut les amis!